Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour à tous et bienvenue au 71e épisode de Pop en Stock. Pour les gens qui n'étaient pas au courant ou qui l'ont oublié, Pop en Stock est un portail de réflexion sur la culture pop, un nouveau genre. Et c'est aussi une émission de radio que vous aurez peut-être le privilège et le plaisir d'écouter un jour. Et une collection d'essais aux éditions de ta mère. C'est à peu près ça. Je me suis dit aujourd'hui que la présentation resterait à dire qu'on est là et on est heureux. Aujourd'hui, pour y aller peut-être en forme un peu plus longue, Pop en Stock est un effort aussi considérable à augmenter la qualité du dialogue sur la culture populaire en général. Une chose qu'une personne qui est ici présente aujourd'hui, Karine Contanto, donc vous savez que je vais la présenter d'un instant à l'autre, m'a fait remarquer récemment, c'est cette idée-là qu'on a tendance à assigner l'épithète de culture pop aux trucs qui sont seulement relégués à la culture geek, mais qu'on peut voir et on peut reculer un peu de correctement définir culture pop, c'est vraiment d'inclure beaucoup plus de trucs. Et pour les nouveaux auditeurs, ou en fait les auditeurs qui ont commencé à écouter dans la dernière saison, je pense que vous avez remarqué cette tendance-là, à essayer d'inclure des choses qui n'appartiennent pas automatiquement à la culture geek, mais qui sont néanmoins très pop. Et vous allez voir de plus en plus de ces efforts-là émerger au long des émissions, parce que on veut finalement être une belle, bonne et constructive voix sur la culture pop. Donc, la personne qui m'a ouvert les yeux et il s'y présente, comme je vous dis.
Ma foi. La
moindre Hélène, bonjour.
Bonjour.
Qui est aujourd'hui chroniqueuse et non animatrice.
Mm-hmm. Et j'ai un rhume aussi.
Ah!
Donc, j'ai une voix un peu étrange.
Fait qu'on est quatre en studio.
Oui, ma voix, Hélène. Et,
ouais. Et le rhume qu'on peut nommer.
Oui, le rhume, c'est ça.
Donc, je me suis dit que pour rendre ça radiophonique, puis pour bouger les introductions, se ferait de cette manière. Hélène, c'est qui ton personnage préféré?
C'est Magenta.
Oh shit, c'était. Je pensais qu'il y avait un moment d'hésitation.
Parce que je me suis déjà déguisée en Magenta à un Halloween particulier, puis alors, on a des cheveux semblables.
Puis... Ah! Puis ça, c'est. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce que c'est comme un truc à toutes les époques de Hélène, on développe une affection pour quelqu'un d'autre?
Ah, je sais bien pas.
Ah, tu vois, c'est là, je l'ai
vu. J'aime beaucoup Frankenfurter aussi. Enfin, j'aime beaucoup Tim Curry entre Frankenfurter.
Facile. Tim Curry devrait être automatiquement disqualifié, cette question-là, parce que c'est pas mal facile.
Oui, oui.
L'autre rire que l'on entend, c'est l'incomparable. Laurent Boutin, qui est un ancêtre, un great old one, un vieux sage de la radio, qui a allumé pendant plus près de 6 ans dans ta bulle. Qui maintenant shift sa spécialisation sur la bande dessinée pour faire des chroniques à BD Film en vôtre.
Oui, sur les ondes de CIBL.
Ah, je suis tellement content de t'avoir ici. Laurent, personnage préféré?
Je vais y aller avec Eddie, moi. J'ai une affection pour ce gars-là parce que, tu sais, il est à l'écran le temps d'une chanson.
Oui.
Il arrive, défonce un mur, chante une chanson, il meurt, après on le mange. Puis,
c'est
Meatloaf! What's not to like?
Est-ce que c'était Meatloaf à l'époque? Excuse-moi, il y a comme il émergera des questions comme
à
ça.
À l'époque de la première visualisation, tu
ouais.
veux dire? Je pense pas que j'avais... ça m'a pris du temps à avoir des personnages préférés parce que j'étais juste tellement confus, je pense, les premières fois.
Ouais.
C'était juste que moi, ça bouge de partout, il se passe tellement de choses, j'arrive pas à décortiquer, tu sais. C'était comme un tout.
C'est vraiment cool parce que c'était comme une double question, ça. Évidemment, tout le long de l'émission, je vais vraiment questionner ton obsession pour Rocky Horror Picture Show.
D'accord.
Parce que je te connais comme fan de plein de trucs, mais je pense que c'est la première fois que tu représentes, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Tu sais, il y a comme un... je connais plein de trucs, j'aime plein de trucs, mais Rocky Horror, c'est l'affaire... que je me ferais tatouer sur le chest.
Mais c'est un film qui appelle au rapport de fans aussi, vraiment beaucoup. Là.
Ben, de toute évidence, oui. Mais c'est pas la première fois. C'est pas... Voyons. c'est pas un hasard que c'est ma première fois à Pop en Stock, c'est que depuis le début de l'émission au complet, toi puis Francis, vous êtes comme, viens, viens à l'émission, s'il y a de quoi qui tombe, je suis comme, ah, mais il y a aucun sujet que je maîtrise assez bien, vous me faites peur, mais là, j'étais comme, si y a une émission de Rocky Horror, je pense que je peux défendre mon point. Fait que...
C'est vraiment cool, ça, que c'est comme... T'as Eye of the Tiger qui joue présentement, ou du moins peut-être un équivalent un peu moins. Mais non, c'est très intéressant. En même temps, la double question par rapport à Meatloaf, c'est est-ce qu'il s'appelait Meatloaf à cette époque-là ou est-ce qu'il a pris ce nom d'artiste-là à cause qu'on le mangeait pendant Rocky Horror?
Moi, je sais la réponse.
Oh!
Meatloaf provient des États-Unis, puis comme à peu près tout kid... Qui vient d'une espèce de région, peut-être pas rurale, mais pas des grands centres. Il a joué au football, là, au secondaire. Puis, il était un peu empoté et son coach l'a nommé pain de viande, Meatloaf, comme Stubbing this Meatloaf, quelque chose comme ça. Ah. Et c'est ce surnom-là provient de cette époque-là. Donc, ça ne provient pas de
Rocky Horror. OK, ouais. Parce que je me suis dit que ça serait quelque chose de très, très drôle, on dirait.
Oui, c'est vrai, c'est comme un hasard.
Ben, en fait, de ce que je comprends aussi de Meatloaf, ça vaut la peine qu'on parle un peu de Meatloaf, parce que c'est ton personnage préféré, il change son nom. Dans Fight Club, c'est Meatloaf A Day.
Oui, son vrai nom, il me semble, c'est Jim Lee A Day.
Ah oui?
Son nom de famille, c'est vraiment A Day, là.
Oh, oui. OK, voilà. OK.
Ouais. Hey, peut-être complètement, mais c'est son prénom sérieux, je l'ai complètement oublié. Là, je sors ça, puis si je l'ai, c'est vraiment parce que j'ai été touché par la main de Dieu, mais A Day, ça, je suis sûr.
La main de Frank, aujourd'hui. Ça, c'est la main. Mais, wow, très, très, très impressionnant. On a quand même quelques trucs à discuter, parce que, bon, vous savez que l'émission Pop en Stock, on est toujours quand même assez rigide, mais en même temps, parce qu'on peut aller flatter le Bouddha de Rocky Horror, ben on va le faire pendant l'émission. Je sais que toi, d'abord avant tout, Hélène, ça tente de parler de cette notion-là de carnavalesque.
Oui, un de mes concepts préférés.
Mais que, avant de rentrer là-dedans, c'est encore une espèce de drôle d'instinct par rapport à l'émission, mais que je me dis que les gens qui vont écouter l'émission s'attendent probablement pas à ce qu'on mette la musique, mais... Je pense que les fans de Rocky veulent entendre la musique parce qu'on se tente véritablement jamais d'entendre la musique de Rocky Horror. Fait que je proposerais qu'on parte en musique, qu'on vienne avec cette notion carnavalesque. Ça sert à deux choses. Un, de nous rappeler ces tunes-là, les mettre fraîchement en tête, mais aussi de faire patienter l'histoire pour ta belle présentation. On va aller écouter ton choix de musique personnelle qui était?
Double Feature Picture Show. La première, en fait, la chanson qui introduit le film.
Ouh, on va l'écouter ça. Oh.
The day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran. Silence fiction. Hot wind.
When I saw Jeanette Scott fight a triffid that spits poison and kills, Dana Andrews, it proves, gave him the rooms, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills. Like a
ce que je disais tantôt, on stan jamais. C'est toujours une chanson que, tu vois, j'étais à régie, puis j'essayais vraiment de le fade out. Je dis, non, mm-hmm. encore, il y a cette parole-là, puis non, il faut commencer un RKO. Pis... Donc, vous êtes toujours...
Il y a du beau saxophone. Moi, je redécouvre le saxophone, puis j'aime beaucoup le saxophone.
et on... Oui, effectivement, puis c'est de redécouvrir mm-hmm, cette chanson-là. Mm-hmm. Toujours un espèce de truc de... J'avais pas porté attention particulièrement à cette... strophe-là et tout. Mm-hmm. Puis c'est d'où le plaisir que je ne crois pas que vous boudez, chers auditeurs,
absolument.
De réécouter cette chanson-là. Hélène, tu vas nous parler du carnavalesque.
Oui.
Parce que ça se prête.
À tout à fait à ça. Le carnavalesque, c'est un de mes concepts préférés. Ça permet de penser des moments ou des instances en culture populaire qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est un concept qui a été introduit par Mikhail Bakhtin, qui est un formaliste russe, là, quelqu'un de bien sérieux. Et quand ses travaux ont été traduits en anglais puis en français, ça a été vraiment... c'est là que ça, les idées ont été diffusées. Il s'est basé tout d'abord sur les travaux de... en fait, c'est pas, Bakhtin s'est basé sur les romans, je peux dire, de Rabelais. Donc, là, on vient vraiment dans le temps. Et Rabelais, dans ses livres, parle du carnaval, de carnaval, mm-hmm. en fait, médiévaux. On connaît le carnaval de Québec, on connaît le carnaval de Rio, quand même, ça a une certaine... résonance dans nos vies aujourd'hui, mais les carnavals médiévaux étaient vraiment beaucoup plus funky que ça. C'était vraiment les temps de l'année où très reliés aux fêtes religieuses, où les normes étaient inversées, où ce qui est généralement mis de côté était complètement célébré. C'est ce qu'on appelle en fait en quelques mots le monde à l'envers.
C'est-tu un peu comme l'espèce de jour des fous de Notre-Dame de Paris un peu?
Oui, oui, absolument.
Okay. C'est l'idée que je m'en fais.
Donc les fous du roi devenaient rois pendant une semaine, les rois mm-hmm. devenaient des mendiants, des trucs comme ça. Il y avait vraiment mm-hmm. une inversion totale. C'était une technique de gouvernance à l'époque où justement c'était les rois et les seigneurs qui gouvernaient. Ça permettait aux gens de lâcher leurs fous durant une période très définie. Et durant le restant de l'année, en tout cas, les journées qui n'avaient pas de fête.
Non festives.
Non festives, ouais. De travailler très, très fort. On s'entend que les serfs, c'était pratiquement des esclaves, là. Donc, mmh. C'est pour accepter un peu leur sort, une couple de fois par année, tu pouvais lâcher ton fou dans les rues.
Donner des claques aux fesses du roi, puis.
Oui, oui. C'est
ça, c'était vraiment.
C'est carrément ça. Le carnavalesque, c'est l'extension conceptuelle, finalement, du carnaval médiéval. Donc, c'est un moment où l'illégitime devient légitime. Un bon exemple, je trouve, ben, c'est Rocky Horror Picture Show, j'y viens, mais un bon exemple aussi, c'est le Noël. Noël où soudainement, les rues sont décorées, tout le monde est un peu à vacances, on a un horaire qui est vraiment atypique par rapport au restant de l'année. On écoute des films en pyjama à 2h de l'après-midi. On écoute ciné-cadeaux. Dans notre cas, on écoute des films pour enfants, puis on aime ça. On mange à s'empiffrer tous les soirs. On boit tous les soirs. C'est comme un peu un monde à l'envers durant ces 2 semaines-là. Ouais. Le Rocky Horror Picture Show aussi est un moment, un lieu de carnavalesque. Le film lui-même, mais aussi tout le culte qui lui a été consacré. Comment reconnaître le carnavalesque dans Rocky Horror Picture Show? Tout d'abord, les gens s'habillent autrement. Les acteurs dans le film, ben, premièrement, Frankenfurter est habillé pendant presque tout le film d'un corset. Aussi, il y a
des jartelles.
Oui, des jartelles. Ça, c'est bien, carrément travesti. C'est pas. Puis c'est un scientifique, tu sais, comme ce qu'on verrait un scientifique comme ça. Brad et Janet sont déshabillés au tout début du film pour vraiment montrer ah, vous êtes dans un endroit complètement différent ici, les amis. Il n'y a pas de limite.
Ben, c'est ça, mais c'est aussi deux personnages extrêmement puritains.
Oui.
On les dénude, oui, on les met, on défait le collet, puis on les oblige à s'exposer.
Oui.
C'est un renversement assez intense.
Oui, assez intense. Le public, lors des soirées de Rocky Horror Picture Show, durant le temps de l'Halloween, aussi se déguise. C'est même très bien vu d'arriver déguisé. Ouais. La première fois que je suis allée voir le Rocky Horror Picture Show à Montréal, je pense dans la file à l'Impérial, il y avait un Frankenfurter. J'avais les yeux comme des baies, là. Je trouvais ça extraordinaire.
C'est drôle parce que moi, la première fois que je l'ai vu encore à l'Impérial, c'est un gars qui avait une jambe cassée qui a gagné le concours de danse.
Ah oui!
Pis ça, c'était, tu vois, pour aller dans la notion de carnavalesque.
Complètement.
Puis il y a quelqu'un qui avait vraiment... En fait, il était déguisé en Rocky.
OK.
Donc...
Rocky est en bobette, là. C'est ça,
c'est un slip doré, that's it. Il y avait un gros plâtre sur sa jambe. Et il y a quelqu'un, en fait, dans n'importe quelle autre circonstance, j'aurais trouvé ça cruel, mais quand ils ont donné le trophée de Best Dancer of the Night, je vous rappelle pour quelqu'un qui manquait une jambe, là, il y a quelqu'un du stage qui est allé en arrière et qui a baissé son slip. Fait que c'était comme l'Impérial, vous vous imaginez, là, il y avait plus de place. Il y avait plus de sièges assis pré-rénovation, je pense, que poste. Fait qu'une salle entière, puis ce gars-là, incapable de remonter son slip de par son handicap.
Okay,
puis tu sais, c'est ça, t'as un moment de comme « Ah, non! » Puis là, tu constates t'es où.
Oui.
Tu constates que t'es comme « Ah, ouais, OK, ça fait partie de la game. » Puis je n'aurais pas d'empathie envers ce personnage-là. Parce que lui non plus, probablement que lui aussi est dans le jeu. Parce qu'il n'est pas parti en pleurs, puis il n'a pas été terrorisé. Il a bien joué la game. Puis ça a fait en sorte qu'on était comme, OK, oui, on est dans une zone temporairement autonome, puis c'est autre chose.
Oui. Et puis aussi, une autre marque du carnavalesque, c'est le fait qu'on joue des rôles spéciaux. Là, dans le film, c'est sûr que c'est des rôles, mais le soir de l'Halloween, se déguiser vraiment en Frankenfurter, se déguiser en Magenta, en Riff Raff, en Columbia, vraiment pour interpréter ça, pour faire justement un moment spécial, sinon une marque. Il y a beaucoup d'accent qui est mis sur l'humour, le rire, la moquerie. Dans Rocky Horror, on niaise vraiment beaucoup l'Amérique puritaine. Là, on détruit ça beaucoup. Et dans les représentations proches de l'Halloween, également, je veux dire, c'est vraiment drôle. Si vous le savez pas, les auditeurs à la maison, en fait, il y a un dialogue un peu qui s'installe entre les gens dans le public, la foule, et qu'est-ce qui passe à l'écran. Donc,
on crie après l'écran, littéralement.
C'est ça, on crie après l'écran.
Bien bizarre, ça aussi, c'est une drôle de...
On rit de ce que le film montre, tu sais, fait que c'est comme une espèce d'humour à double niveau. Frankenfurter, c'est ça, qui se moque complètement des normes puritaines de Brad et Janet, mais on se moque complètement aussi de Frank qui se moque de Brad, de Brad et Janet. Pardonnez-moi mon rhume.
Et même pendant qu'on est dans le sujet de cette conversation-là, ou du moins d'encourager les gens de participer, je ne sais pas si c'est le cas pour vos expériences, parce que j'imagine que chaque représentation de Rocky Horror est différente. Tu peux pas vivre deux fois le même spectacle. Mais de ce que je me souviens, il y a des lignes qui viennent compléter le film. On vient rajouter des trucs à certains points parce qu'il y a des gens qui connaissent, qui sont très habiles avec le script annoté et qui doivent créer des entre-lignes pour faire des gags, là.
En fait, il y a depuis quelques années, je dirais que la gang à l'Impérial ont instauré comme un... Je sais pas c'est qui, en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment un micro et qui shoot, lui, toutes les lignes de ces entrelignes-là au grand complet durant tout le film.
Okay.
Ce qui est souvent particulièrement drôle. Par contre, ça décourage un peu, je dirais, le reste de la participation d'audience parce que ce gars-là a un micro puis il connaît toutes les lignes anyway. Fait que pourquoi moi, j'essaierais d'autres choses? De crier autre chose. Mais tu sais, c'est super intéressant parce que, je veux dire, il est vraiment drôle. C'est juste qu'à un c'est moment ça. Donné, au bout de quelques années, tu sais, c'est comme c'est nouveau la première fois, mais au bout de quelques années, ça tue un peu la participation de l'audience. Je te dirais, les dernières fois que je suis allé au vrai, à part les fameux assholes pour Brad, slot pour Janet, il n'y a plus grand-chose qui se fait niveau criage, malheureusement.
Wow, mais ça vient à un nouvel enjeu, en fait, du carnavalesque, c'est que... Le monde à l'envers devient le bon monde. Mm-hmm. Ça crée des nouvelles normes.
Ouais, je trouve qu'il y a une valeur qui se perd parce que tu fais...
C'est ça, c'est comme un...
Ah, ouais, non, ben c'est ça, ben, c'est une autre conversation à avoir, mais c'est dommage parce que c'est ça, là, autant que cette idée-là d'avoir un public qui devait crier, ça ramenait... ça faisait un rappel à cette époque-là où le théâtre était animé, là, que tu ne pouvais pas avoir l'attention de la foule parce que la foule était continuellement en train de crier après les acteurs. Ça se perd. Là, tu sais, t'es en train de demander aux gens du Rocky Horror Picture Show de star et d'écouter. Puis ça, pour moi.
Ben, je suis très d'accord. C'est pour ça que j'étais très content. On est allé au Rocky Horror Show la semaine dernière, moi et Hélène. Et puis c'est la version vraiment musical d'origine, si on veut. Ouais. Donc, avec des acteurs et tout, pas de film du tout. Puis là, il y avait plein de gens qui criaient pendant ce temps-là. Les acteurs passaient tout le temps comme à vraiment sur le bord de décrocher parce que c'était déstabilisant et tout. Puis ça remettait le fun dans le truc. Là.
Oui, j'ai remarqué aussi que la narratrice...
Oui.
En fait, le rôle du narrateur dans le film était pris... Était fait par une femme dans le...
The Inspector, The Professor.
Oui.
Oui. Oui. This man has no fucking neck.
Oui, oui, oui. C'est bon, okay. Elle faisait des calls. Là.
Oui, oui.
J'ai remarqué ça.
Elle faisait elle-même des calls, puis même des fois, comme quand elle allait faire son bout, elle était comme... ben là, j'ai dit Brad, vous criez pas.
Oui, oui, oui.
C'est que...
Mais ça, au moins, tu vas chercher ça.
Oui, oui, c'est ça. C'était bien... Ben, plus plaisant. Mais on digresse.
Ouais, c'est pas grave.
En même temps, pas du tout, parce que ça fait partie de tout ça.
Ça fait partie de ce microcosme qui est créé pour l'occasion.
C'est ça. Puis je veux dire, il reste quand même un élément important de cette participation-là, c'est-à-dire la partie où on pitche des affaires.
Oui.
Qui est comme une partie vraiment importante du carnavalesque, parce que moi, pour vrai, la première fois que je suis allé et que j'ai compris que je venais de pitcher du pain à quelqu'un, puis que cette personne-là m'en veut pas, tu sais, c'est comme, je veux dire, je sors dans la rue, je pitche du pain à quelqu'un, c'est ça, je me mange une volée, tu sais. Mais là, je mange du pain, puis je reçois du pain, puis tout le monde est content.
C'est une moquerie de ce qui est officiel.
Oui.
Puis le culte autour de Rocky Horror Picture Show, justement, à pitcher du riz, pitcher des toasts, pitcher du papier de toilette, c'est souhaité même durant les représentations. Et ça m'a complètement les normes habituelles de fréquentation de salles de cinéma où il faut être silencieux, assis et écouter le film. Là, c'est vraiment absolument le contraire.
Le plus de bruit, le plus de déchets, parce que pauvre le gars qui passe la mop à l'Impérial, pareil après, parce qu'on pète, tout le monde pète du riz, puis après il y a de l'eau partout, tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est pas le fun à ramasser, mais...
Ouais, ils prennent l'extra staff.
C'est pas le fun à ramasser, mais en même temps, c'est la seule... Je touche du bois là-dessus, là, j'ai l'impression que... Puis toucher du bois, ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire. C'est le seul film qui permet au staff de participer. T'sais, c'est parce que quand il pleut, là, c'est le staff qui arrose d'abord et avant tout.
Ouais, OK.
Fait que, tu sais, moi, si on me demandait de travailler un soir du Rocky Horror, je serais comme, ben oui. Ouais, il faut que tu ramasses après. Ouais, mais...
Mais ben, j'ai eu du fun.
Tu m'aurais jamais vu pitcher du pain à du public de même de ma vie, t'sais. Fait que, il y a du donnant là-dessus, là.
Et, finalement, point très important pour le carnavalesque, c'est aussi la célébration de la sexualité, de tout ce qui est tabou et tout ce qui relève du corps, finalement. Et là, dans le film, vraiment, on voit une orgie à la fin. Je veux dire, on les voit pas tout nus, là, quand même, mais il y a beaucoup de peau qui est exposée, notamment avec, justement, Eddie qui est en bobette. On comprend très bien la forme des seins de Susan Sarandon. Ouais. Pas de problème là-dessus.
Sourire sur son école. Ouais.
Frankenfurter qui couche avec Janet et Brad. Mm-hmm. Donc, puis on parle des années 70, là, quand même, c'était quand même quelque chose, là, de bisexualité comme ça.
Oui.
Assez ouverte et comme célébrée là, dans le monde de transsexual.
Oui, oui, oui. Puis en même temps, je pense que c'est le fait que personne regardait dans la direction de ce film-là a permis.
Ah oui.
Tu sais, c'est comme no one was looking, fait qu'on a vraiment créé un précédent qui n'a pas été imité. Moi, j'avais toujours été très confus par cette introduction de Drew Carey Show, où, étrangement, je sais, mais ça s'en va quelque part, il y avait un showdown entre les Rocky Horror puis Priscilla, Queen of the Desert.
OK.
Dans un épisode où il y avait deux showings simultanément à Cleveland et la moitié de la gang de Drew Carey était en Rocky Horror puis l'autre moitié était en Priscilla. C'était comme une espèce de passation du flambeau que c'est Priscilla qui va,
qui va
devenir le prochain gros...
hit culte, étrange, ouais.
Sur le carnavalesque, évidemment. Peut-être. Puis ça s'est jamais concrétisé. Priscilla est un film exceptionnel, mais c'est pas un film qui a une grande pérennité, qui est pas du tout, tu sais, qui a pas atteint.
Il y a pas de représentation à l'Halloween, c'est ça.
Mais non, exactement, tu sais. Fait que j'avais toujours été très, ça m'avait, je me posais la question vraiment ça. Je me disais, y a-tu vraiment un moment où ça va basculer, puis on va plus regarder qu'est-ce qui s'est fait dans les années 90 par rapport à la transsexualité que qu'est-ce qui s'est fait dans les années 70. Non. C'est tellement fort que ce qui a été créé par ces gens-là il y a maintenant 40 ans que ça, c'est encore aussi d'actualité, c'est toujours aussi relevant, puis on veut toujours le revivre, on veut toujours le réactualiser, ce texte-là, si on peut dire. Un point tel que je viens d'apprendre à l'instant que la représentation montréalaise, en fait, là, tout ce qui se passe autour de l'impérial, ça serait la plus grosse célébration du Rocky Horror Picture Show en Amérique du Nord.
Wow!
C'est à quel point est-ce que...
Mais en fait, ça, il doit y avoir des choses qui jouent, parce qu'à Montréal, il y en a qu'une fois par année, pendant trois soirs. C'est seulement l'Halloween. Je pense qu'il y a plusieurs villes aux États-Unis où ça roule à l'année longue, toutes les semaines, toutes les fins de semaine, où il y a une représentation avec un cast et tout. Puis pas juste à New York, là, j'ai l'impression que vraiment, tu sais, dans toutes les grandes villes des États-Unis, ça se passe. Fait que c'est peut-être le fait que nous, on est privés à l'année qui fait que à l'occasion de l'Halloween, ça serait peut-être vraiment peut-être le plus gros, mais c'est parce qu'on est comme, on est asséché le reste du temps.
Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est devenu synonyme de l'Halloween, puis c'est probablement à cause de ce carnavalesque-là.
Oui, absolument.
À l'Halloween. Quand en fait, il n'y a rien vraiment dans le film qui...
Non, il n'y a rien vraiment qui...
Strictement Halloween-esque.
Non.
Ou du moins...
À part de ce nom, mais c'est l'espèce d'appropriation, de déguisement qui...
Oui, puis je veux dire, ça se passe théoriquement à la base aussi dans un contexte
d'automne,
de
pluvieux.
Parodie de films d'horreur.
Oui,
tu sais,
vrai,
je veux dire, il y a quand même ce setting-là qu'on a tendance à oublier parce qu'après ça, c'est juste comme des jartelles partout. Puis Mais on sait, la chanson qu'on a écoutée tantôt d'ailleurs fait référence à plusieurs films d'horreur des années 30, 40, 50.
Oui,
puis je veux dire, le Rocky Horror Picture Show est lui-même une espèce de monstre de Frankenstein de tous ces films-là avant, tu sais.
Wow. Puis Eddie est un peu une figure Frankenstein.
Oui, c'est ça. Ben, je veux dire,
Rocky, désolé.
Ouais. Rocky, oui. Ben, oui, d'ailleurs, le nom du docteur, il fait référence, Frankenfurter. Ouais. Rocky est lui-même, mais en même temps, d'être le négatif du monstre de Frankenstein, dans le sens où, oui, il est rapiécé, mais il est pas un monstrueux du tout. C'est plutôt comme vraiment un monsieur univers, tout en muscles et tout. Fait que là, encore là, on est... en train de switcher les sens et les rôles. Mais c'est ça, le film lui-même est une espèce de collage de tout plein d'influences d'horreur, d'où peut-être l'Halloween, en quelque part.
C'est très intéressant.
Je pense que il me semble, cette semaine, que la scène... Il y a une des scènes importantes qui a été filmée un 30 octobre.
Mais Laurent, ce que tu dis, c'est absolument fascinant, puis je vais m'en servir pour venir parler de la transmédialité dans le film. Parce que t'aurais pas pu plus mieux dresser la table pour ce sujet-là. évidemment, on va aller en musique parce que, parce que je veux l'entendre. J'ai juste le goût de la réentendre. On va aller écouter Sweet Transvestite, puis après ça, je vais vous parler de la transmédialité.
How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Right.
Or maybe a bite?
Right.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Pop en Stock. Et pour les gens qui se posaient la question, oui, on est en train de danser en studio.
Oui, enchanté aussi.
Ouais, on a un peu pas le choix pendant qu'on danse. C'était pas pour rien, en fait, Sweet Transvestite, parce que pour moi, ça illustre parfaitement bien cette idée-là de transmédialité qui existe dans le film. La transmédialité est un concept qui est d'abord et avant tout théorisé à mort par Henry Jenkins. En quoi est-ce qu'on est capable de créer une œuvre à plusieurs significations, le plus qu'on utilise des médias différents. Okay. Donc, passer d'un média à un autre et ensuite à un autre et à un autre, ça va créer ou ça va démultiplier les significations différentes. Moi, il y a comme une phrase dans Rocky Horror, pour moi, qui est très forte par rapport à ça. C'est une phrase qui est dite par le criminologue qui dit « And crawling on the planet's face, some insects called the human race, lost in time and lost in space and meaning. »
C'est la fin, en fait, c'est la...
Exactement.
Ouais, les derniers mots du film.
C'est les derniers mots, carrément?
Oui, avant la reprise de Science Fiction.
Voilà. Ah, c'est une très, très belle phrase.
Oui.
C'est pour moi une phrase qui vient vraiment expliquer comment est-ce que tous ces éléments disjoints, c'est pour ça que ton introduction par rapport à Frankenstein était vraiment bonne, c'est que quand on écoute Rocky Horror Picture Show, on a... ou du moins pour ma part, jamais l'impression qu'on est en train d'écouter quelque chose de cohérent.
Mm-hmm.
C'est pas quelque chose de complet qui est pensé du point A au point B de façon lisse et comme ben, lisse étant le meilleur mot, là, les, ben, lisse comme les abdominaux de Rocky, essentiellement. Il y a des cicatrices, il y a des stitches, il y a des membres qui ont été rajoutés. Il y a même, dans la nature même du texte, dans la nature même de comment elle est représentée à l'écran, on a, comme tu disais, on va chercher du cinéma d'horreur. On va chercher, c'est drôle parce que pendant qu'on écoutait Science Fiction, tu disais qu'elle était au début puis à la fin. Mm-hmm. Puis, ben, ça, l'idée de faire une œuvre qui tourne sur elle-même, on le sait bien, ça provient de Orson Welles' Citizen Kane. Et dans le film, il y a la tour du RKO. Donc, est-ce que Rocky Horror est en train d'essayer de faire le Citizen Kane de la culture camp? Moi, je pense que c'est le cas. Ça fonctionne très bien aussi avec cette définition-là du cinéma culte, en fait. Définition que j'utilise assez souvent. Un film réussi ou un film à succès, c'est un film que 100 personnes vont voir une fois. Mais un film culte, c'est un film qu'une personne va voir 100 fois. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, il y a ça dans Rocky Horror. Il y a définitivement, t'en es la preuve vivante, Laurent, il y a une volonté de, même si on a fait le tour, même si on a atteint un pinacle de compréhension du film, on veut encore aller le réécouter. Mm-hmm.
Parce que ça n'a jamais fini de se livrer, en fait. Moi, je veux dire, je l'ai réécouté il y a deux jours, puis il y a encore des bouts que j'avais pas vus. Dans le sens que, tu sais, oui, au début, t'es juste comme, ouais, il y a des chansons, il y a plein de choses qui se passent. Puis, mais une fois que tu portes attention à plus l'emballage, mettons, là, y a tellement, ne serait-ce que dans le décor, d'éléments disparates, de garrochés un peu partout, un peu n'importe comment, et n'importe quoi,
oui, tu sais,
que t'es comme, ah, j'avais pas remarqué que c'était telle, la photo de telle personne qui était là, ou telle peinture, ou tel élément dans le décor, tu sais.
Wow, OK, ça, c'est ça, c'est que t'es rendu au détail sublime de
oui,
l'œuvre, là.
Oui, ouais. Je suis comme rendu là, oui.
Mais ça, c'est parfait, tu sais, c'est comme cette idée-là que tu peux faire une lecture horrifiante. Tu peux faire une lecture Frankenstein, tu peux faire une lecture de la science-fiction aussi, parce que ça devient Invaders from Mars, là, où ils ont des couettes dans la tête puis ils tirent des lasers.
Oui.
C'est l'utilisation extrêmement cheap d'effets spéciaux qui ne sont pas là pour créer un simulacre parfait. Là. C'est vraiment là pour dire « effets spéciaux, gang! » Ça, pour moi, ça participe tout à cette transmédialité-là. Aussi, l'idée que c'est une pièce de théâtre musical qui a été transposée à l'écran, qui a conservé assez de sa théâtralité pour être joué en parallèle à des soirées. Je me rappelle, bon, moi, je me fais mon expérience personnelle, mais il y a des interactions au sein de la soirée Rocky Horror entre les acteurs qui jouent et des trucs qui arrivent à l'écran. Mm-hmm. Un exemple très, très banal par rapport à ça, pour illustrer mon point, c'est quand il y a des éclairs, je me rappelle que les acteurs se placent stratégiquement exactement où l'éclair va tomber. Et meurt. Fait que le personnage est en train de comme danser, il y a un changement de décor, ou je sais pas trop exactement ce qui est en train de se passer, puis t'as un Brad qui recule un peu, puis un éclair qui tombe dessus, puis il fait « Ah! » il shake, puis il tombe. L'interaction entre l'écran, comme là, c'est pas pour rien que je bête, que j'allais un peu t'hameçonner par rapport à ça tantôt, t'sais. Le public qui est supposé être muet, qui parle à l'écran, donc cette trame-là, qui est une deuxième trame de commentaire au film, qui est aussi une trame de complétion du scénario. Tout ça est en train de rentrer un dans l'autre pour faire ce gros Rocky Horror-là. Là.
Puis il y a aussi le narrateur. Le narrateur qui nous... dont on suit les réflexions également, parce qu'au début, si je me souviens bien, quand le narrateur arrive, c'est un criminologue, c'est ça? Il explique comment Brad et Janet sont disparus.
C'est ça, en fait, on est déjà en train de regarder une histoire que ce criminologiste-là nous compte.
Oui, c'est ça.
On n'est pas dans l'action directe.
Puis il fait le time warp aussi.
Oui, oui, c'est ça, il s'emporte pendant ce moment-là.
C'est tellement drôle.
Ce qui nous porte à croire qu'il est à peu près aussi dingue qu'eux autres.
Mm-hmm,
ouais. Parce que là, il est contaminé par l'histoire. Il est rendu debout sur son bureau, puis il pitch les pieds de bord en bord. Lui aussi, c'est... Je veux dire, il n'y a pas de meilleure façon d'illustrer le fait qu'il est non fiable, là. Il est comme juste... donc, toutes ces espèces des choses qu'on devrait traiter comme des frontières ne le sont pas, sont extrêmement poreuses dans le film. Puis ça fait qu'il y a un grand échange. C'est pour ça que l'idée transmédiatique est vraiment forte, parce que tu peux revoir le film au grand complet juste en portant attention à un détail puis en disant comment est-ce que ce détail-là change ça. Pousser mon hypothèse à son paroxysme, c'est aussi dire que tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui l'a vu juste une fois. Tu peux pas, il y a toujours une espèce de conversation de comme il y a un passage obligé, c'est super le fun que tu l'as vu, mais là, retourne-y. Heureusement, Rocky Horror est un film qui est assez amusant. La personne va peut-être même volontairement, va probablement, très fortement vouloir y retourner soi-même à cette expérience-là. Ça fonctionne aussi avec le thème, tu sais, on en parlait. Ben, enfin, Rocky Horror, présentement, est dans un ouragan de conversation sur le fondement de vie des gens LGBT.
Mm-hmm.
Malgré que, comme on disait avant l'émission, il n'y a pas proprement parlé de trans...
De personnes trans,
Il n'y a pas de personnes trans.
Il y a des travestis, mais pas de personnes trans.
Non, c'est ça. C'est, ça a été transformé. Le mot a été transformé pour désigner la race extraterrestre.
Ouais,
en fait.
Exactement. Mais le film a été repris comme un étendard pour ce mouvement-là.
Oui.
Notamment
oui.
avec le carnavalesque et tout. Puis même récemment avec les annonces du cast pour le remake télévisuel.
Ou juste qu'est-ce qu'on voit aussi. Je veux dire, il y a de l'homosexualité dans le film.
Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement trans, mais c'est définitivement queer. Ça, c'est très queer-friendly, déjà, à la base. Puis oui, c'est ça, la production télévisuelle dont tu parles, qui met Laverne Cox.
Ça va être un téléfilm ou ça va être une...
Si, je pense que ça va être un spécial télé. Ça sera pas un film.
Okay.
C'est un poste de télé, il me semble, qui a mis de l'argent là-dessus.
Ben là, ça devrait être encore... parce que, du moins... Jusqu'aux dernières nouvelles, c'était le co-créateur d'American Horror Story qui tenait les droits.
Ah,
en fait, le co-créateur qui a fait l'épisode Rocky Horror Glee Show.
Mm-hmm.
Parce que c'est lui, malheureusement, son nom ne me revient pas, c'est Brad. Je peux pas aller tirer son nom de l'éther à ce point-ci, là, mais c'est un des deux d'American Horror Story qui était le détenteur des droits. Il a pu faire, parce que c'est aussi cette deuxième partie-là qui est le créateur de Glee. Fait que c'est probablement lui qui est encore... Oui, oui. American Horror Story et Glee, c'est fait par le même gars. ça me surprendrait pas que ça soit resté entre ses mains à lui, puis de dire, ben, Rocky Horror Glee Show, c'était une belle réussite, à mon avis. J'ai trouvé très fonctionnel en tant que réactualisation. Puis là, il en est à la deuxième vitesse. Là, il va faire... Le glam opera qu'on veut tout voir.
C'est ça, mais là, on ne l'a pas mentionné, mais en fait, la personne qui a été castée pour Frankenfurter, c'est Laverne Cox, qui est la personne trans la plus connue avec Caitlyn Jenner, je pense, en ce moment.
Probablement.
Oui, c'est vrai. Puis c'est ça où l'idée trans fonctionne à la fois dans le film, fonctionne aussi thématique, et aussi vous soulever toute cette idée-là de transmédiation. Il y a, évidemment, avec une si grande... vague d'investissement des fans, il y a des gens qui ont voulu faire plus. Ne soyons pas surpris de savoir qu'il y a trois scripts de Rocky Horror. Le premier, évidemment, le deuxième, Shock Treatment, qui était sous le titre de travail de Janet et Brad Shaw. Le troisième, qui est, excuse-moi, j'ai le titre direct ici, que c'était... en fait, le titre de production, c'était Revenge of the Old Queen. Puis c'est un truc qui n'a pas tout à fait fonctionné. Et celui dont on parlait au début de l'émission, c'en est un autre, c'était la suite théâtrale où on suivait les aventures du fils à paternité incertaine, soit que c'est le fils de Frank, soit c'est le fils de Brad, qui s'appelle...
Mise au monde par Janet.
Mise au monde par Janet, merci beaucoup. Pas par Frank ou Brad, ça a été complètement malade.
Oui, c'est vrai.
Et aussi très possible. Fait que merci de l'avoir clarifié. Mais qui suit les aventures du fils, qui s'appelait Frank Phoenix. Frank Phoenix, ben, juste avec ce nom-là, tout fan fait OK.
Il venait de ses sombres.
C'est ça, on voit où est-ce que ça s'en allait, ça va de soi. T'sais. Mais au-delà de tout ça, bon, on a eu, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, Laurent, toi, probablement, le Oz Recut. Le fait que, puis ça, j'ai trouvé ça, il y a des affaires comme ça dans le monde, là, quand t'apprends un détail qui vient illuminer l'œuvre au grand complet. O'Brien, Richard O'Brien, avait comme intention première pour le film d'avoir les premières 20 minutes en noir et blanc.
OK.
Et que la couleur apparaissait au moment de l'ouverture des portes de l'ascenseur.
OK.
Ah oui, OK.
Avec Frankenfurter.
Avec l'apparition de Frankenfurter.
OK.
Puis cette version-là, qu'il a voulu, mais qu'il n'a jamais pu rendre réel, elle a été récupérée, elle a été mise dans le Blu-ray, je pense, du 35e anniversaire. Tu peux regarder le Oz Cut, mais c'est le Oz Cut, pas pour rien.
Donc en Australie, ils ont été faits en Australie?
Non, Wizard of Oz.
Ah! Oh, ben,
c'est ça, exactement. C'est ce moment-là où ça fait OK, il est en train de réécrire Wizard of Oz.
Oui, oui.
C'est quelques personnes qui sont tombées over the rainbow.
Oui.
Et tout d'un coup, un petit détail, ça fait changer l'interprétation complète. Fait que là où il y a cette idée-là de rabouter, mais même rabouter, je ne veux pas tout à fait dire ça, mais de greffer des éléments sur ce script-là, qu'il soit formel ou thématique, ça fait qu'on se retrouve avec une grosse bête. Puis il y a encore plus de gens qui nourrissent cette grosse bête-là. Ça fait que cette bête-là, à mon avis, ne trouvera jamais un sens complet. Mm. Il y aura autant de sens de l'œuvre que de gens qui l'écoutent. Bon, c'est comme ça que je me sens. Puis c'est véritablement avec qu'est-ce que j'essaie de dire? Avec la mention transmédialité que pour moi, ça atteint son paroxysme. Il y a aussi un album de punk au complet. Hein?
Mm. Oui, de reprise punk, ouais. Des chansons.
Ah oui, mais j'ai lu aussi cette semaine que les looks de Rocky Horror Picture Show ont inspiré la scène punk, mais je sais pas jusqu'à quel point c'est de la co-contamination.
Ouais, moi aussi, j'ai lu pas mal de ça. C'est vrai que les années concordent,
oui, oui.
Quand même pas mal proches, mais c'est vrai qu'il paraît que, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'idées de mode. C'est la costume designer Shoeblin, je pense que ça s'appelait, qui a pris plein d'éléments qui ont été repris dans le mouvement punk au début.
Le gros maquillage.
Tu sais, punk et post-punk un peu.
Oui, oui.
Aussi, puis tu sais, le cuir, puis les pins, puis tu sais, il y a beaucoup de choses qui se seraient inspirées de tout ça, mais là, bon, j'étais pas là à l'époque, je sais pas à quel point...
Oui, ça relève un peu du mythe, en effet.
C'est
oui.
ça, mais je veux dire, c'est crédible.
C'est vrai. Hey, on va retourner en musique très rapidement pour venir avec Laurent. Qui, toi, tu... veut le sens.
Oui, moi, je veux qu'on parle du sens.
Je viens de te dire que c'est pas possible, mais on va y atteindre.
Ben, c'est pour
évidemment,
ça que c'est le fun.
Évidemment, Laurent est en studio, donc on va écouter Hot Patootie. Because you are a Hot Patootie. Moi, je dois admettre que j'ai toujours un petit kick sur Columbia.
Donc, ah ouais, ouais. Mmh. Je trouve que ça va tellement désagréable.
Ouais, mais il y a juste quelque chose chez cette dame-là, puis ça fonctionne très bien parce que ça explique aussi en quelque sorte mon kick pour l'argent. que je suis content que tu sois.
J'espère que j'ai quand même une voix qui écorche moins, là.
Que le Colombien, ma foi.
Non, non, non. Non, c'est le fait que tu t'identifies ou du moins t'aimes beaucoup Eddie. Fait que moi, c'est un kick par association.
Ouais, ouais, je comprends.
Moi, j'ai un kick sur elle a un kick sur toi.
Donc.
En fait, moi, c'est ça, j'aimerais ça quand même qu'on aborde la question du sens de ce film-là, parce que, pour vrai, je l'ai vu tellement de fois, puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de me poser la question. Ne serait-ce que ça, parce que, tu sais, au début, j'étais juste comme, wow, mes portes de la perception s'ouvrent, il y a plein de couleurs, puis de chansons, puis des gens portent jartel, puis je comprends pas pourquoi, mais j'aime ça. Puis, tu sais, à force de revoir, j'ai fini par me poser la question, oui, mais, outre passer l'hommage au film d'horreur, au camp et tout. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire au final dans ce film-là? Parce que, tu sais, je veux dire, oui, il y a un gros mouvement de participation, des gens qui justement transgressent les codes, on en a parlé tantôt, d'ouverture sur la sexualité, mais c'est un peu oublié que ce film-là se termine sur un constat d'échec.
Oui, oui, complètement.
Ouais,
parce que, oui, on a là le docteur Frankenfurter qui est là pour nous ouvrir à différentes sexualités,
à toutes les expériences
possibles.
Give yourself over to absolute pleasure.
Voilà, mais on s'entend qu'il va trop loin pour même ses compatriotes extraterrestres et qu'il finit tué parce qu'il est allé trop loin dans ses expériences.
Oui, divulgacheur.
Oui, ah ben là, désolé, le film a 40 ans, vous avez tout le temps de l'écouter. Là.
Puis je verrais très difficilement quelqu'un qui est comme « Ah, oh, je vais m'initier cet épisode de Pop en Stock. Weird. »
Alors donc, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire?
C'est ça, Frankenfurter meurt.
Oui.
Puis juste, je pense, comment je le comprends, là, dans l'ascension un peu du vaisseau spatial qui mène vers Transylvania, Janet, Brad et Dr. Scott sont laissés la face pleine de suie, puis il essaie de se chercher, il se cherche dans l'espèce de ruine qui reste, puis c'est ça, les derniers mots du criminologue, du narrateur, qu'on dit que finalement la race humaine n'est que des insectes qui
se
peuplent
voguent,
la Terre.
Ouais, voguent dans le temps, l'espace et la signification. Mm-hmm. C'est drôle parce que moi je pense qu'il y a la possibilité, ou du moins le cocon, là, si on pense chenilles et papillons, de nouvelles religions là-dedans. La façon que je vais m'y rendre est quand même assez étrange. Frankenfurter meurt comme King Kong.
Mm-hmm.
Et on sait que King Kong est mort
pour nos
péchés.
C'était une référence Fairway, oui.
Donc, cette idée-là très discordienne d'une religion où on est nous-mêmes le pape, chaque individu qui adhère est mis en pouvoir, a le pouvoir sur soi-même, et c'est le seul pouvoir qu'on a besoin dans le monde, c'est d'être capable de se contrôler nous-mêmes. Fonctionne, résonne très très bien avec ce film-là. Il y a un empowerment de, tu sais, au-delà du be yourself, tu sais, c'est soit tout. T'as pas à choisir une route, prends-les tous, mets tous les couleurs, soit toutes les identités, soit toutes les manifestations dans le monde, qui est, pour moi, très très proche, on dit film culte, création d'un culte, qui est très proche de cette idée-là, cultiste. Je me sens comme si, en écoutant Rocky Horror, je peux être tout, je peux vivre le spectre. La lumière qui passe à travers le diamant.
Est-ce que ça se veut un peu aussi d'abord comme une espèce de mise en garde de pas aller plus loin et plus vite que tes compatriotes? Moi, je vois un peu ce film-là comme un espèce de statement sur l'échec du mouvement hippie. Parce que, on est en 75, c'est ça, la fin des années, on a tout essayé, les drogues, on a tout essayé l'amour libre, on a tout essayé, puis ça a pas marché, ça s'est quand même écroulé, le pays va mal, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien non plus que quand le film se situe pile la journée où Nixon fait son discours d'adieu.
Mm-hmm.
Je veux dire,
le
pays... que c'est le pays est laissé à lui-même. Donc, c'est un peu, moi, je vois Frankenfurter comme un peu l'espèce de principe de Sartre dans le sens que l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire que lui, il avait des idées, il avait des ambitions, mais il est allé beaucoup trop vite et plus loin que tout le monde, d'où aussi son nom. Il fait pas seulement référence à Frankenstein ou à une saucisse en allemand. C'est Frankenfurter dans le sens Buzz Lightyear, c'est further, plus loin encore. Mm-hmm. que l'infini, et que là, il est allé trop vite, puis sa balloune, il a pété d'en face.
Mais à ce titre-là, ça fait écho à plusieurs... d'autres, à d'autres phénomènes, puis d'autres musiques qui étaient populaires à l'époque.
Mm-hmm.
On a souvent... par exemple, le mouvement glam rock, là, je sais peut-être que je vais me faire des ennemis là, en disant ça, mais c'est, ça dansait sur les cendres du mouvement hippie. Là. Mm-hmm. Ceux qui disent que c'était la suite là, du mouvement de la rébellion, pas de la rébellion, mais de la révolution sexuelle, tout ça.
Mm-hmm.
No, c'était dystopique, les amis. On va mettre ça au clair. Donc, c'est ça. Donc, David Bowie, Alice Cooper, les Runaways aussi qui commençaient à l'époque, qui étaient des jeunes filles, qui chantait à quel point ils étaient complètement désabusés. C'est des filles de 14 ans qui sont comme « Ah, moi, je fuck l'école. » C'est comme, c'est vraiment... t'es pas supposé entendre ça.
Ouais.
Donc, il y a comme un constat d'échec au début des années 70 en Grande-Bretagne et aux États-Unis, à tout le moins, peut-être au Canada aussi, mais je connais pas assez le rock canadien, qui fait écho, donc, à ce que tu dis, absolument.
Mais c'est beau, ça, parce que ça nous donne l'impression que le film est comme une explosion énergétique de nébuleuse, tu sais.
Ouais.
Ça va tout
une
péter.
Une supernova.
Ouais, on fait le plus gros party, exactement. C'est...
Mais c'est peut-être aussi, justement, comme, hey, regardez, les jeunes, il existe toutes ces possibilités-là pour vous, mais le monde n'est pas prêt pour. Mais ça existe. Allez-y, tu sais, avec précaution. Mm-hmm. Ça existe. C'est pas pour rien, en fait, qu'il n'y a pas de transsexuels dans le film, puis qu'on est seulement là, 40 ans plus tard, à finalement être prêt en tant que
culture,
société, à mettre pour vrai un transsexuel dans un premier rôle, tu sais.
Ouais.
Comme ça, c'est comme c'est genre une étape à la fois, on va y arriver.
Mm-hmm. Et c'est ce film-là qui va servir de phare, tu sais.
Oui.
Venez-vous-en. On va s'y rendre tranquillement.
Puis, tu sais, en attendant, si vous vous sentez pas à l'aise dans la culture puritaine qui existe, on aura une petite place pour vous.
Ouais, une petite place carnavalesque.
Voilà.
C'est très beau. C'est une magnifique conclusion. Je veux vous remercier chaleureusement d'avoir participé parce que vous êtes très beau. Et
merci
bon
à toi, Jean-Michel.
On va aller écouter Dark Comedy Morning Show de Open Mike Eagle. Si vous ne connaissez pas, c'est tout un rapper. Et la semaine prochaine, on va venir parler de Danny O'Neill. Merci, chers auditeurs. Bonne semaine.
Dark comedy, cold as the ocean at a low, cause nobody seems to know when I'm joking. For those who haven't heard of me, I'm bad at sarcasm, so I work in absurdity. On that laugh to keep from crying, tip rap like Wyatt versus Chet and Weird Science. Cause my genre's all hack. Cliche, melodrama falls flat. And everybody's getting fired. I flew off the handle and boy, yeah, my arms tired. Rap songs like Pat Adams, Shady Ass thought of it as art till they laughed at it. Rap songs like Steve but right, monotone drone. People wonder if you're reading right. We got that dark, dark comedy, that dark, 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 dark. Rappers ruin the punchline like stand-up club hecklers doing the punchline. Cause I tweet on Sunday morning like a preacher at a church. Because my true religion is the thirst.
Du 5 au 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diop, Les Hôtesses Villard, Fanny Blum, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel www.concourskgp.ca.
RIDM. 140 films, 2 rétrospectives.
Des ateliers, des rencontres.
Des installations, des soirées festives.
Et une salle interactive.
Le meilleur du cinéma du réel.